Bonne année, bonne santé, bonnes élections, bons résultats. Puis quoi ? Puis vivement 95, que Le Pen soit président de la République et qu'on arrête les bêtises. Hein, quand même.
Faut être
un peu sérieux quand même dans ce pays. Ce soir, tiens, je vais vous donner la liste des invités, comme ça vous saurez ce que vous avez à faire.
Ce qui vous attend.
Ce qui vous attend. Alors, il faut vous attendre au pire, parce que ce soir, nous avons pour invité, dans une première partie, M. Olyndre Roger.
Des concerts Pacra.
Présent. Ah, des concerts Pacra. Nous avons M. le professeur Lugan.
Présent.
Qui est le plus sérieux de l'Assemblée. Voilà. Nous avons M. Sanders Alain.
Qui sort de présent.
Présent pour lui. Nous présent, avons M. Pelletier Martin.
Présent couché.
Bon, ça, c'est la partie sérieuse de l'émission. C'est-à-dire la première heure où on va débattre de l'actualité. On va parler des spécialités de chacun. C'est-à-dire que on a pris un accord. Bernard Lugan ne dira pas un mot sur la Yougoslavie. Et Alain Sanders ne dira pas un mot sur l'Afrique du Sud. Comme ça, on a des chances de pouvoir terminer cette émission sans intervention des forces de l'ordre. Et puis ensuite, alors, vers 19h, je recevrai Patrice Deblinière, qui est candidat aux élections législatives partielles de Paris 18e arrondissement.
Et 19e.
Et 19e, à la suite de la scandaleuse annulation, invalidation de mon excellent ami Jean-Pierre Bloch. Parce que tout ça parce que vraiment, écoutez, on a envie de rigoler. Il avait dépassé, je crois qu'on l'a, il a été convaincu d'avoir dépassé les dépenses électorales autorisées de quelque chose comme 20 000 francs. Hein, c'est ça.
Oui, gros.
Et on l'a invalidé à cause de ça. Ce qui est vraiment, moi, alors là, je suis très sérieux. C'est une honte. C'est une honte. Voilà. J'espère, ça va, j'ai...
Roger fait des papillotes pendant ce temps.
Roger fait des cocottes en papier.
On va savoir pourquoi.
Donc ça nous amènera à 19h30. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons, comme d'habitude, téléphoniquement Marc Dem. Ensuite, Sanders, pour parler de littérature, là.
Ah bon,
oui, ah, oui, d'accord. C'est comme ça.
Oui, oui.
Bon. Nous aurons également Marie-Josée de Bravoura. Et nous aurons Cécilia, qui viendra nous parler de fleurs avec des invités. Ah bon ? Ah oui, non, c'est pas cette Cécilia. Et puis, voilà, ça nous fera la deuxième partie. Alors, je signale tout de suite à ceux qui ne sont pas intéressés par ce programme qu'ils ont un deuxième terme, comme c'est une alternative, il n'y a donc un deuxième terme, qui est d'aller au Père Tranquille, 30 avenue du Maine, pour se livrer avec notre excellente amie Valérie Delahaye, à une activité ludique qui consiste à tirer les rois. Et ce tirage des rois sera accompagné par les chœurs montjoueurs. Mmh. Voilà. Il sera d'ailleurs accompagné aussi par Force Fillette, enfin les fillettes, Force Bouteille. Donc voilà, vous avez ça. Ou alors vous pouvez carrément regarder la télévision si vraiment vous êtes désespéré.
Pas grand chose.
Si, il y a un reportage qui peut être très très intéressant. Qui s'appelle La filière blanche, si je ne me trompe pas, et qui est donc un reportage sur les réseaux de pédophilie.
Ah non, c'était hier ça, mon petit.
Non. C'est ce soir.
Ah ben c'était hier soir, parce que moi j'ai eu un compte rendu de quelqu'un qui l'avait vu.
Ah, qui l'a vu à Projection.
Non, qui l'a vu sur Arte hier soir, où on a vu des salopards, et on a vu notamment Monsieur Maznev, qui est venu témoigner, dire que tout ça était esthétique, ta mère.
Il semble qu'il y a peut-être une deuxième partie.
Il y a peut-être une deuxième partie, ça c'est.
Alors, en tout cas, vous vérifiez si ça vous intéresse. Moi, personnellement, je trouve que
Et il paraît que c'était particulièrement ignoble.
Justiciable du couteau.
Ben, nous pourrons faire la troisième partie, la guillotine.
Oui,
la guillotine sèche.
Alors, ma chère Victoria, quels sont les événements de l'actualité qui ont retenu votre attention ?
Oh, je voudrais bien que vous me parliez des vœux du président, tout de même.
Parce que quelqu'un. Martin Pelletier a certainement envie de parler
du président Le Pen.
Le président de la République.
Non, le président Le Pen viendra présenter ses vœux prochainement.
Ah ben, je dois dire que j'ai vu et entendu comme tout le monde les vœux du président l'autre soir. J'ai trouvé ça totalement inintéressant. Mais les journalistes, après, nous ont expliqué comment il fallait interpréter ce qu'avait dit le président. Moi, je pensais qu'il avait parlé en français. Il m'avait semblé entendre du français. Non, non, on nous a bien expliqué sur toutes les chaînes ce qu'il fallait tirer des déclarations du président. Alors, entre les rires enregistrés, les explications qu'on nous donne de ce qu'il faut penser de ce que dit le président de la République, les explications qu'on nous donne le matin, ce qu'il faut penser dans la journée, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, comme dirait Alain, on vit vraiment une époque épatante.
Dis-moi, mais haute-moi d'un doute, il y avait pas. Moi, j'ai pas regardé parce que, contrairement à ce que croit un auditeur, la semaine dernière, j'ai dit que au deuxième tour, je voterai Mitterrand en cas présidentiel si Le Pen n'était pas présent. Alors un auditeur m'envoie une lettre en disant, puisque c'est comme ça, je ne voterai. J'avais l'intention de voter pour le Front National, puisque c'est comme ça, je ne voterai pas.
Voilà, mais tant mieux, parce que quand on raisonne comme ça.
Mais non, je voulais dire, alors soyons
incroyables.
Si on peut plus blaguer, alors il faut mieux arrêter l'émission tout de suite.
Parce non, mais enfin, Louis, enfin, on se bat pas pour les gens qui n'ont pas d'humour.
Non, mais voilà, c'est ça. Il faut quand même essayer de comprendre qu'il y a dans cette
émission. Qui reste chez les autres, ceux qui n'ont pas d'humour, qui restent avec Chirac.
Écoutez France Inter,
voilà.
Si vous n'avez pas d'humour,
vous verrez la différence.
Quand Mitterrand a un peu lorgné du côté de la Corée du Nord, on n'est même pas du tout convaincu qu'il ne va pas refiler la présidence à son fils.
À Kim Il-sung.
Oui, non, à son fils.
Non, mais la question que je voulais te poser, parce que donc j'ai pas regardé les vœux de Mitterrand parce que je supporte pas. peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et comme j'ai pas d'argent en ce moment. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis en ce moment, parce que j'avais en
fait une chose. Parce que tu as une télévision à pièces, comme en Angleterre.
C'est que je ne veux pas jeter
une couche dans un hôpital psychiatrique en ce moment.
Je ne veux pas jeter un cendrier dans le poste. Alors, j'évite les émissions comme ça. Il y a des gens que j'évite. Alors, j'évite, par exemple, Mitterrand. Donc, je n'ai pas regardé. Mais d'après ce que tu dis, ils auraient passé des rires enregistrés pour ponctuer l'intervention du président de la République.
Oui. C'était ça.
Ah, c'est donc, ils font vraiment très très fort.
Non, mais il n'existe plus, Mitterrand. On l'a vu l'autre jour à la télévision. Il n'existe plus. Il disparaît de l'écran. Pratiquement, c'est bientôt un hologramme complètement transparent. Bientôt un trou noir, d'ailleurs.
Moi, je ne suis pas trop d'accord avec vous.
Alors
parce que je suis persuadé que s'il se représente, il peut leur faire très mal. Il peut faire très mal encore. Moi, je suis pas du tout. Je le prends. Pour tout sauf pour un imbécile ou un ectoplasme.
C'est pas du tout un imbécile. Non, je trouve qu'il se décolore.
Il se décolore. C'est une momie.
Mais j'aime bien l'idée de Roger parce que il faut quand même. C'est pas complètement fantaisiste de dire qu'il va faire comme Kim Il-sung, laisser la place à son fils, puisqu'il lui a déjà laissé les pots de vin de Pella. Quand Pella filait du fric, jusqu'au moment où il a été président de la République. Il les a touchés, et puis quand il était président de la République, il a dit, je peux plus, maintenant que je suis président de la République, je peux plus toucher d'argent sans motif. Donc c'est son fils qui les a reçus. Donc finalement, puisque...
C'est quand même ahurissant dans les histoires du fils, c'est tout le
scandale. Ah non, c'est pas moi qui dis ça, c'est le directeur de la société de Pelin qui dit que cet argent ne correspondait à rien.
Au Comores et tout ça a été écrit, tout ça a été prouvé, tas de gens qui sont dans le...
Pasquois fasse quelque chose contre le fils, à mon avis, c'est tout.
Contre le fumeur, on va en parler avec...
Pasquois devrait faire quelque chose contre le fils Mitterrand.
On va en parler. Ah non, le fils Mitterrand, je croyais que c'était le fils algérien.
Non, je croyais que tu allais dire du mal de nos camarades du fils.
Oui. Non, mais je m'entends
qui
rien.
Qui font ma foi, du travail. Parce que je sais pas ce qu'ils font, ces gens du fils. Qui, ma foi, ils sont chez eux, et en plus, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais généralement, je regarde un petit peu leur cible semaine après semaine. Ben, y a peu d'innocents là-dedans. Hein. Les types qu'ils égorgent, c'est tous de l'ancien FLN Bontain, donc d'anciens égorgeurs.
Oui, mais enfin, rectifier un peu. Non, des gens qui assassinent des poètes. Parce que enfin, si on nous avait dit, aux parents en Algérie, qu'on avait en face de nous que des poètes, on aurait amené des pipeaux, on n'aurait pas pris des pistolets mitrailleurs. Là, maintenant, il n'y a plus que des poètes en Algérie. Des poètes égorgeurs. Ouais. Une spécialité algérienne.
Non, mais là il tue du procureur.
Ça a déjà existé, les poètes égorgeurs, ou le poète voyou, c'est une grande tradition française.
Oui, mais pas en quantité. Pas en si grande quantité. Ah,
ben faut quand même pas confondre Villon et les FLN, tout de même.
Oui. Enfin, c'est plutôt Genet.
Oui, c'est Genet à qui il pense. Parce que Villon n'a jamais tué personne.
Demain, il nous arrive 800 à 900 000 poètes, on n'est pas sorti de l'auberge.
Hein. C'est les maisons d'édition qui vont être contentes.
Ah, oui.
Bon, enfin, ça, on en parlera, si tu veux, tout à l'heure, interroger, puisque c'est une des raisons pour lesquelles tu es là, puisque tu organises, on va le dire tout de suite, pour que nos éditeurs aient le temps de
le 20 janvier
pour, de téléphoner pour nous redemander l'adresse.
Regarde s'il est brouillon.
Non, je suis pas brouillon du
tout. Voilà. C'est à la mutualité.
Alors, tous avec Jean-Marie Le Pen à la mutualité, le jeudi 20 janvier 94, c'est ni plus ni moins dans une semaine, quoi, pour moi, c'est 15 jours même. On pourrait dire carrément 15 jours. À 20h, avec Gollnisch, Roger Olyndre, ni FIS ni FLN en France. Ce qui me paraît un programme sympathique. Soirée présidée par le commandant Met, secrétaire général du Cercle national des combattants. Alors on parlera de ça tout à l'heure.
Oui.
Et on peut continuer peut-être à voir un petit peu ce qui retient l'attention de Victoria dans l'actualité.
Mais je voudrais savoir ce que sont devenues les bougies de l'abbé Pierre, parce que je n'étais pas à Paris, j'ai pas regardé.
Moi j'ai vraiment regardé, j'ai tourné un petit peu, puisque j'étais invité, je le dis ce soir-là, à dîner chez mon excellent ami Clédor, le serrurier du président. Eh bien, on a donc circulé à la fois dans Paris, dans la banlieue. J'ai pas vu de bougies beaucoup sur les fenêtres. Alors pas à l'aller. Philippe fait signe que je voyais plus rien, mais c'est pas vrai. À l'aller, j'étais parfaitement lucide. C'est au retour que je voyais. Mais je me demande si l'abbé Schneer et le docteur Coupière ont réussi leur coup.
Oui, mais enfin, il y avait quand même quelques personnes qui ont mis des bougies, au moins toutes seules, qui ont été filmées par la télé, puisque chaque chaîne de télé avait sa famille qui expliquait pourquoi elle mettait des bougies sur le balcon.
Oui, non, mais chaîne avait sa famille.
Et bien, voilà,
il y avait, dit le nombre de personnes.
Donc, il y avait sept familles. À deux bougies, ça fait 14 bougies.
Et puis, il y avait Stian qui avait engagé des figurants avant de recevoir sa Légion d'honneur.
Avec des bougies.
Oui.
J'ai même vu un gars qui les coupait en trois, comme ça en faisait un peu plus.
Ah bah oui, c'est économique. Mais la meilleure réponse, c'est quand même Lulu qui l'a donnée. Lulu, cardinal.
Oui, Lulu.
Quand on lui a demandé, est-ce que vous soutenez l'opération de l'abbé Pierre, il a dit, oh non, ça me regarde pas du tout. Moi, je soutiens l'opération du pape qui a demandé une semaine de jeûne et de prière pour l'ancienne Yougoslavie. Quant aux bougies, il fera mieux de les envoyer aux intéressés.
Il a été très bien, Monseigneur Lustiger.
Pour une fois, là.
Fois où il était à Sarajevo, il a été très bien. Ouais. Et c'est Monseigneur Lustiger, en l'occurrence.
Ah, dans ce cas-là, tu lui rends son titre.
Oui, très bien. Donc, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il a dit des choses formidables et même formidables.
Mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Je dirais même plus. Bon, alors on en parlera tout à l'heure avec toi, puisque toi, tu vas nous parler de la situation en ex-Yougoslavie, à laquelle on ne comprend. Alors là, j'y comprenais déjà pas grand-chose avant.
Ne me dis pas ça, parce que je vais grimper.
L'attitude, ne grimpe pas au mur. Non. Je dis, ce que je ne comprends pas, c'est cette affaire de l'ONU, des généraux qui, après n'avoir rien fait, apparemment démissionnent parce qu'on les laisse rien faire. Et cette histoire, on en parlera aussi si tu veux, le fromage, on peut dire le mot qui est fait depuis ce matin, parce qu'un soldat tient un coup de feu, il a touché quelqu'un.
Oui, non, mais il y a le fromage qui est fait dans West France, hein, il ne faut pas non plus.
C'est extraordinaire.
Parce que des ripostes des soldats français, il y en a eu. Hein, on en parlera peut-être tout à l'heure. D'ailleurs, le général Cotte a dit, ils ont parlé de celui-là parce que c'est dans le climat actuel, mais. Ils sont humiliés, ouais. Mais de moins en moins. Il faut le savoir. Ouais. On en parlera tout à l'heure.
Il ne faut pas se tromper que si les Français voulaient riposter, ce soldat a tiré à 620 mètres ou 650 mètres. À toutes les unités d'élite françaises aujourd'hui ont d'excellents tireurs avec un excellent matériel qui permet de tirer de jour comme de nuit.
Bien sûr.
Comme de nuit. Donc il suffirait qu'il y ait un ordre. Seulement si un ordre est donné de riposter, c'est la guerre. Mais va-t-on continuer à envoyer des soldats pour se faire tirer dessus et ne pas faire la guerre? Parce que ça fait des années maintenant qu'on envoie des soldats pour faire les bonnes à tout faire, vider les poubelles, nettoyer les WC et autres. Des soldats, ça n'est pas fait pour ça.
C'est justement ce que...
Il n'y a qu'à envoyer des forces de police ou des CRS. Je ne dis pas ça de façon méprisante, mais... Si c'est du service d'ordre à faire, et prendre des coups et ne pas les rendre, c'est la police, la gendarmerie qui est dressée à ça. L'armée n'est pas là pour se faire tirer dessus et ne pas riposter.
Voilà.
Autre sujet.
Est-ce que 1994 va être l'année du révisionnisme? Parce qu'il y a eu les accords.
Autre sujet.
Les accords Vatican-Israël. Moi, sur Europe 1, jeudi dernier, j'ai entendu le correspondant là, qui... qui soulignait que pour Israël, le ciment des accords donc Vatican-Israël, c'est la lutte commune contre le racisme et l'antisémitisme. Alors
Ben, il y a les horlogers boulangers, il y a la lutte contre le racisme.
Ah bah la calotte.
Bon, la meilleure réponse, on la trouve dans un quotidien de ce matin qui s'appelle le quotidien de Paris d'ailleurs, dont Martin Pelletier a dû vaguement entendre parler.
Dans le temps.
Dans le temps, fut un temps, dans lequel il y a un papier de Monsieur Paul Gignevski qui explique très tranquillement que l'encyclique Veritatis Splendor est une agression antisémite intolérable. Parce que les chrétiens revendiquent l'héritage de l'Ancien Testament, ou plutôt ils revendiquent le dépassement de l'Ancien Testament par le Nouveau, l'accomplissement, non pas le dépassement, mais l'accomplissement, et l'Église catholique a l'arrogance de prétendre détenir la vérité. C'est quand même assez étonnant de la part d'une religion de prétendre. Moi, j'attends qu'on m'indique quelle religion ne prétend pas détenir
la vérité. À une différence près, Serge, c'est que l'Église catholique détient la vérité.
Ben voilà.
À part ça, bon.
Mais ça, M. Gignevski n'est pas du tout d'accord avec ça.
Ben, bien sûr.
Alors, il dit, il insulte carrément les catholiques, il insulte l'Église, il insulte le pape, en disant.
Mais il devrait faire un petit peu attention.
Le fait de détenir la vérité, il faut la libérer, d'après eux.
Oui.
C'est le fait de la détenir.
Je crois que M. Gignevski, je n'ai pas lu son papier, mais je crois qu'il a raison, parce que la question judéo-chrétienne est très simple. Un chrétien doit tenir les juifs qui n'ont pas reconnu le Messie pour des gens aveugles qui ne se sont pas ouverts à la révélation. De la même façon, le juif qui est resté dans l'ancienne loi, qui ne pense pas que le Messie est arrivé, doit tenir le chrétien pour un imposteur et un imbécile. Ça me paraît clair, il n'y a pas d'autre solution, des deux côtés.
C'est évident, mais attends.
Du point de vue religieux, j'entends bien, ça n'empêche absolument pas les bonnes relations personnelles, d'estime et d'affection, et de tout ce qui
ça va sans dire.
On parle du point de vue religieux. Hein, les deux religions sont totalement exclusives l'une de l'autre.
Voilà,
il y a d'un côté une mère indigne, si on veut, et une fille dévoyée.
Oui, c'est entendu, mais ce qui est surprenant dans le papier de Gignevski, parce que c'est pas surprenant du tout, justement, parce que ce papier est dans le droit fil de ce qui a été écrit la semaine dernière dans Temps moderne par M. Redeker, c'est qu'ils disent pas ça du tout. Ils disent, vous les catholiques, vous êtes les pourvoyeurs d'Auschwitz.
Ouais.
M. Redeker disait, si la passion du Christ est vraie, Auschwitz est un mensonge, et comme Auschwitz n'est pas un mensonge, la passion du Christ est une imposture, et M. Gignevski, ce matin dans le quotidien de Paris, dit très, très exactement que c'est la doctrine catholique en qui résident les germes d'Auschwitz.
Ah ben j'avais pas dit à ce moment-là, je crois que la griffe va avoir du boulot, parce que ça c'est de l'anticantisme.
Exactement.
Ça c'est vraiment du racisme.
Marie Calter, la semaine dernière, a été condamnée pour beaucoup moins que ça.
Voilà.
Oui, je pense que là...
Donc, je ne sais pas si 94 va être l'année du révisionnisme, mais ce qui est certain, c'est qu'il va quand même falloir réviser certaines méthodes de terrorisme journalistique, parce que ça pourra pas durer indéfiniment, étant donné que les tribunaux, maintenant, se permettent de condamner même les incondamnables. Oui, monsieur Hollande.
Oui, je dois dire que nous allons à grands pas vers le révisionnisme parce que Alain et moi, nous faisons le mémorial de la guerre d'Indochine en deux volumes.
Et c'est pas rien.
Et on révise tout ce qui a été dit et écrit en grande partie. Entre autres, la position des gaullistes en 1945 en Indochine, qui est probablement scandaleuse. Alors là,
l'affaire de coups.
L'affaire de coups et tout.
Alors, ça, c'est pour paraître quand?
Le premier tome, nous le remettons fin février, le 28 février. Le premier tome s'appellera des pavillons noirs à Dien Bien Phu. Ça s'arrête à la chute de Dien Bien Phu. Le deuxième tome, c'est le départ du Tonkin, l'arrivée dans le sud, et toutes les explications, la trahison communiste et l'imposture Viet Minh.
Voilà. Ok, mais ça c'est intéressant.
Avec énormément de documents, beaucoup de photos, enfin ça sera deux beaux volumes, deux très beaux volumes.
Professeur, vous vouliez intervenir ?
Nous parlions des bonnes nouvelles de presse. Je voulais vous annoncer que j'ai gagné mon procès contre VSD. Enfin, grâce à...
Non, je croyais qu'on parlait de journaux, là.
On parlait de procès tout à l'heure. Alors, grâce à Maître de Saint-Just, parce que les auditeurs m'ont demandé des nouvelles de mes procès la dernière fois. Donc, procès gagné en appel, gagné donc première instance et en appel. Donc, le jugement définitif. Donc, le VSD a été condamné pour m'avoir caricaturé avec un insigne strictement interdit.
C'est bien.
Une grosse condamnation.
On revient à la presse ou on parle de l'actualité?
On continue à parler de l'actualité. Les Iraniens qui ne sont pas passés par la Suisse pour rentrer chez eux, est-ce que ça vous a choqué?
Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Monsieur Pasqua a décidé une fois pour toutes qu'il allait terroriser les terroristes. Alors, le meilleur moyen de terroriser les Iraniens, c'est de les envoyer chez eux.
Oh. Dès l'instant où on avait plié le genou devant une famille libanaise dans un village libanais, il n'y a pas de raison de ne pas plier le genou devant l'Iran. Hein.
Alors, il y a autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut quand même libérer de la place dans les prisons pour coller les dangereux photographes en chemise noire. Et si on veut pouvoir emprisonner les gens qui photographient les villas, il va falloir libérer les terroristes iraniens. Parce qu'on ne peut pas les faire cohabiter et on ne peut pas agrandir indéfiniment les cellules. Alors il faut dire qu'aujourd'hui, en France, en 1994, mais c'était déjà le cas en 1993, on est dans un pays dont les autorités qui passent leur temps à jouer les rodomons en roulant des mécaniques, en disant jamais l'extrême droite, on fermera la gueule aux nationalistes, nous ne laisserons pas des propos, même légaux se tenir dans les journaux,
même anodins
se tenir dans des journaux publiés, même légalement, sans intervenir, tout ça avec force, roulement de Dieu et basculement d'épaules. Et puis, quand on a deux terroristes iraniens et que les ayatollahs disent « on veut la libération de ces deux-là, autrement on vous fout le pétard chez vous », hop, on se dépêche de renvoyer les Iraniens au mépris total des conventions d'extradition qui nous lient à la Suisse. Et dans le même temps d'ailleurs, au mépris total de l'absence de toute convention d'extradition avec l'Uruguay, on demande l'extradition de monsieur médecin. C'est-à-dire, et pendant qu'on libère des terroristes, on garde en prison maintenant depuis trois semaines des gens dont le seul crime, attendez, c'est quand même extraordinaire, le seul crime de messieurs Verazani
et Leclerc
est d'avoir rencontré un chirurgien dentiste qui avait photographié la villa de M. Gobert à Deauville. Alors, on est quand même dans un pays, on peut se demander, ce matin j'entendais un journaliste de France Inter, je crois qu'il disait, on vit dans un état de droit.
Dans les territoires occupés, tu ne peux pas prendre des photos n'importe où.
Voilà, je crois qu'il y a des gens qui sont un peu plus terrorisés que les autres, nous en faisons partie.
Oui, mais ils avaient fait des photos en noir et blanc, et le laboratoire a prouvé qu'il y avait plus de blanc que de noir sur la photo.
Ah bah c'est ça, d'où, évidemment, d'où apartheid, enfin, exclusion. C'est vrai, bonne idée ça.
Vous vous faites rappeler alors par une auditrice qui dit que, tout de même, ce soir à la télé, il y a tout de même la marche du siècle avec Pasqua et la France et ses étrangers. Et oui. Alors, c'est un bon programme, ça.
C'est bien.
Est-ce que vous nous parlez de Tapie aussi? Moi, je comprends rien. Il a été mis en examen à Béthune, mais alors...
Celui qui a compris, c'est Sanders, je crois.
Oui, il a compris. Oui, il a été mis en examen une première fois dans l'affaire de Béthune.
Oui.
Et là, on est en train de parler de l'affaire VA. Oui, je l'appelle VA parce que c'est un club...
VAOM.
Le club de Valenciennes. OM. C'est cette affaire-là dont vous causez au sujet.
Ah, celle où Mélic a battu le record de vitesse sur autoroute.
Voilà, oui. Le bourreau de Béthune.
Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans, les députés, puisqu'il y a eu une levée d'immunité parlementaire?
Parce que la première levée d'immunité parlementaire ne concerne que l'affaire de la balance, de Teftu.
Bien sûr.
Oh là là. Et il faut une autre. Et l'autre affaire, c'est l'affaire notamment du témoignage du bourreau de bitume, Mélic et compagnie, l'affaire de corruption au OM Valenciennes.
Alors si j'ai bien entendu, je crois que M. Tapie a dit ce matin ou hier soir, s'ils continuent à me chercher, ils vont me faire sauter la caisse.
Oui.
Ça veut dire quoi, la caisse? La caisse de l'OM?
Je crois que ça veut dire ça.
Ou il va faire comme Noir, il va se suicider.
Ça veut dire ça, peut-être, oui. Ou peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va nous faire. En fait, pas. C'est tout un genre de...
Parce que ça avait bien marché pour Noir. Quand il a dit « si vous continuez, je me suicide », tout s'est arrêté. Ils ont eu tellement peur avec Bérégovoy, alors que Bérégovoy ne s'est pas suicidé, il a été assassiné, tout le monde le sait. Donc ils se sont dit « si Noir nous fait le coup, on ne peut pas se permettre d'avoir plus d'un suicidé par an dans la classe politique, ça ne fait pas élégant ». Et maintenant, Tapie a compris le truc, et il dit chaque fois qu'on l'embête, il dit « attention, si vous m'embêtez, je me suicide
bon, ». Mais si quelqu'un crie « feu à volonté
», oui, bah toi, tu vois toujours les choses en noir.
Non, je ne vois pas du tout les choses en noir dans cette affaire Tapie. Je crois que le drame, c'est que déjà, les trois quarts des Français sont en art. La jeunesse de ce pays, on fait en sorte qu'elle ne croit plus en grand-chose. Bon, et dans l'affaire Tapie, où il est coupable et qu'on se dépêche de le condamner, où il n'y a aucune preuve, et puis qu'on arrête de l'emmerder. Parce que ce type se présente à la mairie de Marseille, il risque d'être élu. Et je ne parle pas... sur un plan politique, je parle sur un plan moral. Ou c'est une crapule, ce que je crois, hein, et puis il faut qu'il paye ses comptes, que ses comptes soient réglés, comme pour tous les autres hommes politiques, ou tout ça c'est du pipeau, et puis on arrête. Enfin, je ne comprends pas, des centaines d'articles, des dizaines de bouquins ont été publiés ces dernières années expliquant les magouilles, comment il avait monté ses affaires, comment il avait fait fortune en ruinant des usines et tout. Bon, est-ce que c'est poursuivable? Il faut le poursuivre. Est-ce que ça n'est pas poursuivable? Il faut arrêter, parce que s'il n'est pas condamné, eh bien ça fera à dire encore d'autres, ben, où il avait des amis, où il a été défendu. Enfin, tout ça n'est pas bon. Tout ça n'est pas bon pour la morale et pour le moral du pays.
Ni pour la démocratie.
Oui.
Je vous rappelle que nous faisons un tour de l'actualité avec Roger Hollande, que vous venez d'entendre, Alain Sanders, Martin Pelletier, le professeur Lugan, Victoria et votre serviteur. À propos de morale, puisque Roger, tu parlais de morale, j'entendais tout à l'heure une information qui m'a paru intéressante et qui démontre, si vous me permettez, je vais développer mon argumentation, qu'un Français sur deux est un salaud. Parce que ce sondage nous disait un Français sur deux trouve immoral que l'on puisse gagner 6 milliards au loto. Ok ? Alors ils sont
scandalisés. Ceux qui n'ont pas gagné, notamment.
Oui. Alors justement. Moi, s'il y a un seul Français sur ces 40, le chiffre exact c'est 49%. 49% des Français considèrent que c'est immoral de gagner 6 milliards au loto. S'il y a un seul Français sur ces 49% qui, sincèrement, est capable de venir me voir en me disant « Mais c'est tellement immoral que si moi je les avais gagnés, je les aurais pas pris, je lui tirerais mon chapeau. » Mais je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que les gens qui trouvent que c'est immoral sont des gens qui, si ça leur était arrivé à eux, aurait pris le fric et cela serait fermé. Ce qui veut dire que 49% des Français sont prêts à faire quelque chose d'immoral du moment que ça rapporte du fric. Et ça me rappelle une vieille histoire que je ne peux pas raconter au micro.
Oui, elle est très bien.
Et qui dit que c'est pas ce qui manque, c'est surtout c'est l'argent. Voilà. Donc ça confirme un petit peu ce que je pense quand même depuis les résultats des élections, de nombreuses élections depuis des années, où on arrive toujours à 50%, en gros 50% gens de gauche. Ça corrobore ce que je disais tout à l'heure. C'est intéressant, les petits sondages.
Oui, c'est bien.
Voilà. On revient à
la dernier fait divers, le Gabonais, ce malheureux Gabonais qui est mort.
Mais oui.
Alors ça, Alain Sanders, ça a une...
Il était végétarien.
Oui, il était végétarien. Et il est mort parce que en prison, comme on sait, en prison, il y a de la viande tous les jours. Il ne mange même que de la viande. Et alors, entre la ratatouille du lundi, le riz du mardi, les choux de Bruxelles du mercredi, les pâtes du jeudi et les carottes du vendredi, il ne trouvait pas à se nourrir, ce végétarien. Alors, on nous a monté tout un truc là-dessus. Hein, le type était fou, il se croyait marabouté, c'est-à-dire ensorcelé. Donc, il ne touchait aucune nourriture, pas plus de la viande que autre chose. Il ne mangeait que des fruits. On a retrouvé sous sa couchette 15 baguettes de pain. Il n'empêche qu'on nous fait une histoire de cette histoire et que l'on essaie de... Il y a une enquête diligentée. Voilà. Il n'y a plus de Gabonais au numéro que vous avez demandé, et puis c'est comme ça.
J'attendais celle-là.
Oui.
Oh là là là.
J'étais sûr.
Là là là.
Monsieur Martin Pelletier, pour l'instant, on vous a guère entendu. Est-ce donc que l'actualité ne vous inspire aucun commentaire?
Non, moi je me posais une autre question sur un récent mort qui n'est pas Gabonais, mais qui est géorgien. L'ancien président Gamal Sarkozya s'est suicidé.
Je ne sais pas.
Il faudrait bien qu'on parle un peu de ce suicide, si quelqu'un a des informations. C'est quelque chose qui est très bizarre, tout de même.
L'instant, c'est annoncé seulement par sa femme. Oui. Il se serait suicidé dans une ville qui était encerclée. Or, il était avec ses troupes loyalistes. Et puis, Gamal Sarkozya, c'est le contraire d'un... On le voit... Ça peut arriver, hein. Mais enfin, on ne voit pas pourquoi. Alors, pour l'instant, on n'est même pas sûr de la nouvelle, hein.
On n'est pas sur la nouvelle, mais si on est sur aussi, la nouvelle se vérifie.
Il faudra chercher du côté de chez Vernadze et de Yeltsin.
Il y a des suicides qui tomberaient bien dans ce cas-là.
Vous voulez quand même pas dire que M. Chevernadze pourrait avoir du sang sur les mains.
C'est, non seulement il a du sang russe, pardon Serge, ce qui est dommage pour un Georgien, mais en plus c'est un assassin.
Une auditrice demande ce que vous pensez de Jirinovski.
On l'a dit la semaine dernière, mais je veux bien y revenir. Je pense qu'il est absolument démontré maintenant que Jirinovski est un provocateur qui est manipulé par des forces obscures, sur la nature desquelles je ne m'étendrai pas, faute d'enseignements précis. et qu'il est là pour
provocateur.
C'est un pur provocateur qui est là pour semer la zizanie. Mais quand même, il faut lui rendre hommage, parce qu'il a dit une chose, d'ailleurs qui n'a été reprise par personne sauf par présent. Il a dit « Je voudrais venir en France ». Alors naturellement, le Lufia, le journaliste de service, a dit « Ah bon, vous voulez rencontrer Le Pen ?» Il a dit « Non, non, moi, notre mouvement n'a rien à voir avec le mouvement de M. Le Pen. En revanche, nous nous sentons très proches des idées de M. Chirac. Donc, merci Giry. Spasibo Bolshoï. On ne peut pas faire mieux, on ne peut pas arriver mieux. C'est pour une fois qu'un provocateur nous sert la soupe. Et c'est très bien, je suis très très content. Donc, camarade Giry, Tavalich Giry, c'est bien, bravo. Encore deux ou trois coups comme ça, et vraiment, tu auras bien mérité de la patrie.
C'est pas sûr que quand même ceux qu'il manipule le laisseront refaire un coup comme ça tout de suite.
Il est peut-être un peu C.O.N. Pantoufle, hein, cela dit.
Parce que... il peut échapper, c'est une créature qui a pu échapper aussi.
C'est pas la première fois qu'il leur échappe. Hein.
C'est un golem.
Oui, c'est un golem.
Voilà, donc c'est un provocateur pur et simple qui est là pour essayer d'accréditer cette vieille faribole de la remontée du nazisme ou du fascisme, de tout ce que vous voulez. Le Nouvel Observateur, il y a un papier superbe cette semaine et dont je me permets de faire le commentaire dans le Libre Journal qui paraîtra très prochainement, c'est-à-dire dès demain. Un papier superbe dans le Nouvel Observateur qui explique qu'il existe le titre du Nouvel Obs, c'est la vague fasciste. Et à l'intérieur, il y a un encadré de Madame Etchegouin qui parle de. On n'est pas obligé de rire chaque fois que je dis le nom de cette personne qui explique les réseaux de l'International Brune. Alors, les deux chefs français de l'International Brune, c'est Bernard Anthony, je suis désolé Roger, tu n'y es pas. C'est Bernard Anthony et Jean-Marie Le Pen. Alors, qu'est-ce qui prouve que Bernard Anthony est un des deux chefs français des réseaux de l'International Brune? C'est premièrement que Bernard Anthony est le fondateur de Chrétien Solidarité.
Déjà première faute.
C'est deuxièmement le fait qu'il représente la tendance intégriste au sein du Front National. C'est troisièmement le fait qu'il entretient des rapports étroits avec le major d'Aubuisson,
qui est mort depuis 4 ans.
Président de l'Arena au Salvador. C'est quatrièmement le fait qu'il a des relations extrêmement étroites également avec les milices maronites au Liban.
Qui sont en
qu'il est ensuite en relation avec un envoyé de Mgr Glemp, ce qui est quand même la démonstration, là, vraiment. Et enfin, qu'il soutient les Croates. Alors il faut dire à Mme Etchegouin, si elle ne sait pas lire, on peut lui dire, elle comprendra peut-être que, premièrement, le mouvement ne s'appelle pas Chrétien Solidarité, il s'appelle Chrétienté Solidarité. Bernard n'est pas en relation avec le major...
ou alors avec des tables tournantes, mais ce n'est pas son genre.
Ou comment s'appelle-t-il?
Le major d'Aubuisson.
Le major d'Aubuisson, parce que le major d'Aubuisson est mort il y a 4 ans, et que de toute façon, Bernard n'a jamais foutu les pieds au Salvador, et qu'il n'a jamais rencontré aucun major de l'Arena. En revanche, il s'est occupé beaucoup des contrats nicaraguayens, oui, ça c'est vrai.
Et au Honduras et au Nicaragua.
Il faut dire ensuite que les milices maronites n'existent plus depuis plusieurs années. Il faut dire que... qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Mgr Glemp.
Que Mgr Glemp, c'est pour le faire passer quand même pour un des chefs de l'ordre noir, il va falloir se lever tôt matin.
Tu sais qu'il y avait eu dans VSD un dessin de ce voyou de loup qui avait représenté Mgr Glemp sous forme d'un gardien de camp de concentration avec la croix comme une mitraillette, et ils avaient été le primate de Pologne sous forme de gorille.
Il a été condamné pour ça.
Je sais pas ça, tu vois. Je sais pas, non, parce que c'est le droit des clowns.
Ah oui.
Parce que quand ils font ça, c'est des clowns. Mais...
Et alors, quant à Le Pen, pourquoi est-il le deuxième chef de l'International Noire? Eh bien, l'explication tient en deux phrases. Premièrement, il se promène partout en Europe aux frais du Parlement européen. Et deuxièmement, quel est le deuxièmement déjà? Il prend soin de ne se laisser photographier qu'avec des chefs légalistes. Voilà, donc ça c'est là, on tient la bête immonde. Chaque fois que vous faites vous posez sur une photo avec le chef d'un parti légaliste, par exemple si vous êtes sur une photo en France avec Chirac ou avec Juppé ou avec Rocard, pof, vous êtes membre de l'Internationale Noire, ce qui fait qu'effectivement elle commence à être assez nombreuse, l'Internationale
Noire. Comment elle s'appelle ta bonne femme là?
C'est Chigouin. Voilà, mais c'est pas cochon. Donc la montée du fascisme. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'on n'entend que ça, puisque vous allumez votre télé. Hein, vous avez quand même une chance sur deux de voir apparaître un fasciste. Évidemment, il n'est pas toujours traité en bien. Mais enfin, ils sont quand même à l'écran. Pratiquement, quand on a le câble sur 25 chaînes, si vous balayez le câble, c'est bien le bout du monde s'il n'y a pas au moins 8 émissions qui rappellent les heures les plus sombres, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. Donc il y a des fascistes sans arrêt. Hier, par exemple, il y avait sur M5, je crois, ça s'appelle cette chaîne, M25, TV5, je
sais plus. Oui,
TV5, il y avait une émission terrifiante sur le nazisme. On voyait des trucs, c'était hallucinant. Vous vous rendez compte que les soldats allemands, les avant-guerre, les soldats allemands, ils fabriquaient, ils étaient dans des menuiseries, ils fabriquaient des berceaux. Ouais, dans les menuiseries des casernes, des berceaux en bois.
Des salauds.
Ah non, mais c'est invraisemblable. Et après, on voyait ces mecs torse nu et en bottes, et en culottes, parce qu'il n'y avait pas que des bottes quand même, je sais bien qu'il y a fantasmagorie. Non, ils avaient des culottes et des bottes, de moto d'ailleurs. Et
avec un aigle sur le dos.
Et vous savez ce qu'ils faisaient avec ça? Ils fauchaient les blés. Non, mais. Alors évidemment, mais c'est comme disait le commentaire. Quand les Nations Unies ont vu ça, quand la Société des Nations a vu ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a vu des soldats qui fabriquaient des berceaux et qui coupaient du foin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réuni une réunion extraordinaire et elle a menacé de prendre des sanctions contre l'Allemagne. Et vous savez ce qu'il a fait, ce salaud d'Hitler? Il s'en foutait. C'est incroyable. Il s'en foutait carrément. La Société des Nations l'avait menacé de sanctions et lui, il leur a dit « Gehenzi, Machenzi, Selbst », enfin, des trucs, oui, cochonneries allemandes. Eh bien, heureusement qu'on nous montre des choses comme ça sur la télévision. Parce qu'autrement, on pourrait être tenté de recommencer. On dirait Hitler, « Hitler revient, tout est pardonné ». Comme ils disent maintenant à Lénine, « Lénine revient, ils sont devenus fous ». Vous voyez?
C'était cet imbécile de Sardou, ça.
Oui, bon, enfin, écoute... C'est pas un imbécile, c'est un chanteur. Je dis plus rien.
Il y a une auditrice qui vous a très bien compris. Alors elle vous dit, le pape a condamné les nationalismes et l'esprit de clocher. Quand finirez-vous de l'encenser, ce pape?
Ah, mais attention, le pape a raison. Il y a un très beau texte de Maurras dans le discours préliminaire de l'enquête sur la monarchie, où Maurras dit fait des distinguos entre nationalisme et nationalisme. Tous les nationalismes ne sont pas à encenser. Et il y a des nationalismes, et Maurras dit dans le discours préliminaire, il dit nous sommes tout autant menacés par le nationalisme barbare que par l'anarchie.
Et dis-moi, il y a des nationalistes que je ne peux pas blairer, c'est les nationalistes étrangers.
Voilà,
déjà, finalement. Déjà, pour commencer, il faut bien dire...
Je ne vous avais pas beaucoup entendu encenser le peuple. Vous l'avez beaucoup encensé, oui, là, tout à l'heure.
Oui, si on l'a encensé, qu'est-ce qu'on l'a encensé? On dit tellement de choses.
Et puis alors, bon, on n'arrête pas de vous entendre parler de snipper par-ci, snipper par-là. Doit bien
qui a parlé de snipper?
Un mot français.
Tireur embusqué.
D'élite.
Tireur embusqué. Mais est-ce que cette même dame ne porte pas une redingote? Est un riding coat. Okay, elle emploie un mot anglais aussi.
Non,
et le mot snipper, prononcé comme les Français le prononcent, et il y a encore un snipper qui a tiré, c'est devenu une redingote.
Hein. On dit un snipper.
Et quant à la civilisation judéo-chrétienne, alors bon, hein, on vous est renvoyé à l'épître aux Galates de Saint Paul.
Mais je n'ai jamais utilisé ce mot-là, je ne l'utilise jamais, moi.
Maintenant, c'est judéo-catho.
J'ai jamais dit ça, je dis la religion catholique.
Bah oui.
Et la civilisation catholique. Non, mais on m'entend dire des choses que je ne dis pas. Et même des fois, ça coûte extrêmement cher.
C'est même une confusion. C'est moi qui ai utilisé le terme précisément pour le combattre et faire attention à la distinction. Donc, visiblement, cette auditrice n'a pas bien écouté.
Il faudrait y avoir des voix plus marquées quand même. Il faudrait qu'on sache.
Plus mal. Et Martin, il n'a pas la voix très mal parce qu'il est loin du micro. Mais quand il se rapproche, regarde-le.
Donc, la grande Michou. La seule chose, Martin, qui a retenu ton attention dans l'actualité, c'est la disparition supposée de M. Gamsakhourdia.
Oh non, il y a aussi la Banque de France dans l'actualité d'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose d'immense. La loi portant sur l'indépendance, entre guillemets, de la Banque de France, quelque chose qui est extrêmement grave. C'est-à-dire que la Banque de France, qui est faite pour quelque chose, c'est-à-dire de financer l'État, éventuellement ses déficits, en fait, et pour régler la politique monétaire du pays, ne va pas plus pouvoir le faire. Or, on sait très bien depuis fort longtemps qu'une des fonctions régaliennes, une des prérogatives de l'État, c'est de battre monnaie. Donc maintenant, nous ne pouvons plus le faire.
Alors là,
on sait bien qui va le faire à notre place. Aujourd'hui, c'est une journée qui n'est pas du tout passée comme ça, comme une lettre à la poste, mais c'est quelque chose qui est fondamental. C'est une des grandes pertes de l'indépendance nationale qui vient de passer comme ça tout seul.
Alors moi, ce qui m'a frappé dans cette affaire de la Banque de France, c'est que la première chose qui a été annoncée, la toute première chose qui a été annoncée ce matin, quand on a dit, voilà, on est en train de procéder à la nomination des 6 responsables du conseil d'administration de la Banque de France, ils vont toucher chacun 60 000 francs par mois. Déjà, ils savent qu'ils seront payés 60 000 balles
par mois. Ils n'auraient pas pu en trouver à 10 000 balles par mois. Ils n'ont pas cherché beaucoup.
Hein. Bah moi, ils m'auraient demandé.
Moi, j'ai un tas de copains qui sont au chômage, qui auraient accepté même.
Raison de la Banque de France. Pourquoi pas, tu sais, 10 000 francs, je suis aussi journaliste que M. Boissonnat. Hein. Et le journaliste, c'est quand même quelqu'un dont la spécialité est de ne rien savoir.
Donc, tout savoir quand même.
Et de 60 000 francs par mois pour ne rien savoir, ça me paraît bien payé. Mais même pour la moitié, j'aurais même le tiers, je prenais.
Ils t'ont pas demandé?
Non.
Et ça,
je me demande. Oui. Si vous voulez un journaliste, pourquoi pas moi? Pourquoi Boissonnat? Parce que Boissonnat donne des informations économiques sur Europe numéro 1.
Peut-être.
Alors, mais c'est les gens d'Europe numéro 1 qui vont diriger le pays maintenant?
C'est déjà. Si la banque n'est plus contrôlée par l'État, c'est une nouvelle banque d'Indochine. Hein, c'est exactement la même chose.
Voilà. Hein. Alors, je disais, il faut lire un livre, mais je n'arrive pas à me rappeler le titre de ce bouquin. Parce que les éditions Teki l'ont réédité après avoir modifié le titre. Le premier titre était extrêmement mauvais. Ça s'appelait... je me souviens même plus du premier. Si, il y avait Fatima dedans. Le secret de Fatima. Non, c'était pas ça. Enfin, peu importe. C'est un livre qui a été écrit par une ménagère irlandaise, ménagère catholique irlandaise, qui pendant des années... à étudier l'histoire des mécanismes monétaires. Et si vous voulez comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde, notamment ce que signifie la déclaration d'indépendance de la Banque de France, il faut lire ce livre qui est de Deirdre Wilson.
Deirdre. Très belle déesse irlandaise.
Oui,
très vite, sans vouloir embêter ceux qui nous écoutent.
Les auditeurs.
Mais pas des écouteurs.
Faudra lui offrir un dictionnaire de synonymes.
Alors très vite, quand même, tout de suite, je veux dire, les taux d'intérêt dont on parle tant, qui quand même conditionnent le marché de l'argent, eh bien, ce n'est plus l'État qui pourra les fixer, mais la Banque de France. C'est-à-dire qui, en fait, ils vont décider ça à plusieurs. Hein. Bon, on garde nominalement la maîtrise des taux de change, mais on sait déjà qu'ils sont fixés par le marché. Donc, finalement, toute la politique monétaire de la France échappe à la France. À partir de ce soir.
Mais on est tranquille parce que des gens qui gagnent 6 briques par mois, ils ont plutôt avantage à ce que le franc reste solide, non? S'ils étaient payés 3 sous, ou même s'ils étaient bénévoles, comme à Radio Courtoisie, par exemple, nous on est tous bénévoles à Radio Courtoisie.
Ah, pardon, pour l'instant, ils ont pour mission, d'ailleurs c'est une mission qui leur a été donnée par qui, de garder une faible inflation. Mais ils ont donc pour mission peut-être aussi de garder un franc fort. Mais demain, si on leur donne une autre mission, c'est-à-dire qui leur donnera encore une fois?
Il faudra les augmenter.
Ils peuvent choisir une autre politique monétaire.
Il faudra les augmenter.
Ils feront ça en heures supplémentaires.
Je vais laisser Alain Sanders répondre à cette question parce qu'elle me paraît s'imposer. Enfin, oui. Sa réponse me paraît s'imposer. La Banque de France est indépendante à partir d'aujourd'hui. Que pensez-vous de la nomination de M. Sapin?
Alors, t'as eu. Moi, je suis chier.
Oui, voilà, j'ai ta réponse.
C'est Roger qui a répondu. Alors, d'autre part.
Ça me laisse de bois.
Moi, je trouvais que ça sentait le sapin, je pensais que c'est ça que tu nous dirais. Dans la lettre de Jean-Marie Le Pen, dit un auditeur, on dit plutôt du bien de Jirinovski, vous en dites du mal, qui croire, il faut s'expliquer. Alors, je répète pour la suite. Peut-être, je sais pas, cette émission est hebdomadaire depuis 6 ans, ce qui nous fait quand même quelque chose comme 300 émissions. Donc, j'ai dû dire à peu près 300 fois là, ce que je vais répéter là. Je ne suis pas le porte-parole du Front National. Dieu nous en préserve, surtout d'ailleurs Dieu en préserve le Front National. Donc je dis ce que j'ai envie de dire moi, et ça n'engage strictement que moi. Ni Radio Courtoisie, ni les gens qui sont présents à mon émission, ni a fortiori ceux qui ne sont pas.
Il se trouve que tu dis des choses vraies, en l'occurrence. Mais,
ni Le Pen, ni rien du tout. Alors moi, je pense que Jirinovski est un imposteur, un provocateur, qui est manipulé.
Un agent du KGB, un ancien agent du KGB.
Moi, je voudrais qu'on m'explique comment ce type... a dit lui-même, peut être antisémite. Je ne connais pas de juif antisémite, c'est une impossibilité fondamentale. Hein, c'est clair, ça. Le seul qui était réellement juif antisémite, il s'est suicidé. Donc, évidemment, il ne pouvait pas tenir le coup. Psychologiquement, c'est insupportable. Donc, je dis que M. Jirinovski est un provocateur de la pire espèce. Mais maintenant, c'est mon opinion. Et le fait que les rédacteurs de la lettre de Jean-Marie Le Pen ne partagent pas cette opinion,
c'est pas,
ne m'ébranle que faiblement. Vous voyez,
pas,
ça ne me gêne pas.
Que ça, hein, le...
Je ne vais pas reprendre mon amitié à Jean-Marie Le Pen à cause de ça.
D'autant que ce n'est pas de Jean-Marie Le Pen, le texte en question.
Reste à savoir aussi si ce qu'on raconte sur ce type, sur ses déclarations, est vrai. Pourquoi croire que tout est vrai, je n'en sais rien.
Là, si, tu l'as
qu'il
entendu.
Qu'il a été dirigeant du mouvement Shalom, c'est connu.
Oui,
qu'il a été, que son organisation.
Il ne faut
quand même pas oublier qu'il y a un an et demi, deux ans, on a eu la même chose.
On l'a eu hier soir pendant 10 minutes, interrogé par PPDA. Ce type est soit un fou furieux, soit un fou furieux, soit un provocateur intelligent. Dans les deux cas, on n'a rien à faire avec lui, à s'en éloigner très vite. Il parlait en direct.
Je ne tiens pas à le défendre, mais je tiens à dire que je ne crois pas tellement ce que nous raconte la télé, c'est tout.
Mais quand c'est le mec lui-même qui parle, je veux bien que la télé, il y a un écran, mais là, c'est le mec lui-même.
Enfin, il ne m'est pas sympathique, en plus, je trouve qu'il a une sale tronche, pour tout dire. Comme je suis un peu primaire...
Moi, je crois que c'est un malade, manipulé.
Alors, il nous reste un petit peu de temps pour parler chacun de son sujet. On va peut-être donner la parole au professeur qui a été d'une discrétion...
De violette.
Vous étiez engagé, professeur, à ne pas parler de n'importe quoi, professeur.
Et c'est le professeur Lugan.
Et vous parliez de télévision, je n'ai pas la télévision. Nous appartenons à deux mondes différents, mon cher confrère. Mais moi, j'allumais peut-être une bougie, mais pas celle de l'abbé Pierre, pour éclairer ma cheminée.
Alors donc, est-ce que vous pouvez nous dire...
La raison de votre présence.
Non, ça je la connais, puisque j'en suis l'auteur, non pas de vous, mais de votre présence. On va parler de cet atlas, d'ailleurs, de cet atlas de l'Afrique, qui est magnifique, mais...
L'épreuve, elle est en noir et blanc.
Je me doute que quand il sera en couleur, il sera splendide. Pour l'instant, il n'est que magnifique. Je voudrais que vous nous disiez ce qui va probablement se passer en Afrique du Sud, puisque c'est un sujet que vous maîtrisez parfaitement.
Ce qui va se passer en Afrique du Sud, probablement l'éclatement de ce pays artificiel. En fait, on va revenir à la situation d'avant la colonisation britannique, c'est-à-dire chacun va reprendre ses billes, pour parler un langage contemporain. Et les Anglais avaient mis un siècle à rassembler des peuples qui n'avaient jamais été unis, qui n'avaient jamais fait partie du même ensemble par le passé. Et cet héritage britannique éclate sous nos yeux. Et les Afrikaners ont commis l'erreur absolue à partir de 1948 de se poser en héritier des impérialistes britanniques. Car ces Afrikaners qui avaient lutté contre les Britanniques et contre les projets de Cecil Rhodes, à partir du moment où ils sont arrivés au pouvoir en 1948, ont gardé l'Afrique du Sud léguée par les Britanniques. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés des colonisateurs de l'intérieur. Et nous assistons à une décolonisation de l'intérieur avec une métropole intérieure qui est en train de donner l'indépendance à des éléments qui vont éclater comme une grenade dégoupillée ne peut qu'éclater. Et dans ce contexte-là, il se passe des événements très intéressants dans la mesure où l'on... Clerc et Mandela sont suivis par une grande partie des Sud-Africains. Oui, ils sont suivis par 21 partis politiques, mais les principaux partis politiques ne les suivent pas. Les partis Zoulous, les partis du Bofuta Tswana, la droite blanche ne marchent pas dans ce processus. Ce qui fait que dans le meilleur des cas, il y a 50% contre 50%. Et nous allons directement vers un éclatement majeur. Alors, tout le problème est de savoir ce que vont faire les Blancs. J'avais écrit dans un article de présent il y a quelque temps, la partie se joue à trois en Afrique du Sud. En fait, il y a trois éléments. Il y a l'ANC, il y a les Zoulous et il y a les Blancs. Exit de Klerk. Chez les Blancs, à l'heure actuelle, ce qui compte, c'est la droite blanche. Et il y a ces trois éléments. Et il y a de subtiles négociations qui s'établissent entre l'ANC et la droite blanche. Car la droite blanche a mis en avant un élément qui est un État blanc. Souvenez-vous, je le disais à votre émission ici il y a un an et demi, quand je parlais des négociations directes entre la droite blanche et l'ANC, tout le monde m'avait regardé avec des yeux ronds en disant « mais dites n'importe quoi ». Non, pas du tout. Parce que la droite blanche est en train de jouer d'une manière tout à fait remarquable un jeu avec Mandela. Il fallait que Mandela sorte de sa tranchée, sorte de sa tanière. Il fallait que le nom, le mot de la partition, que la notion même d'un État blanc soit définie et prononcée, non pas par les Blancs, car la presse mondiale n'en parlait pas, mais par Mandela. Et en laissant croire à l'ANC qu'ils allaient négocier avec l'ANC, avec Mandela, Mandela a commis une erreur politique considérable en déclarant qu'il était peut-être envisageable que les Blancs aient une sorte d'État. Du jour au lendemain, le Washington Post, toute la presse anglo-saxonne en a parlé, et l'idée de l'État blanc est une idée qui est sortie du terme confidentiel de nos réseaux, de nos circuits et de nos publications pour être mise sur la place publique. Le Monde en a fait sa première page, etc. Donc l'idée de l'État blanc est sortie. Mandela fait une grosse faute politique. Et on se rend compte là que pour Mandela, la perte de ces cadres qui ont été assassinés ces derniers temps, justement par, peut-être par les Zoulous, peut-être par les uns ou les autres, on ne sait pas très bien, pèse énormément. On se rend compte que Mandela ne réagit plus en Africain, mais il réagit déjà en Africain qui s'est longtemps frotté aux Européens, et il perd un petit peu le contrôle de cette réalité dans le monde africain noir. Et Mandela a fait une erreur, et désormais cette idée est la grande idée. Le gouvernement de Klerk a totalement abdiqué, a tout abandonné, il n'existe plus, et aujourd'hui apparaît cette force blanche qui contrôle l'administration, qui contrôle la police, qui contrôle ce qui existe comme armée en Afrique du Sud, et on se rapproche de jour en jour de cet enjeu final. Parce que ce qui va se passer, probablement, qui va déclencher le mouvement? Si les Blancs déclenchent le mouvement, je pense qu'ils auront perdu politiquement. Quoique l'État libre d'Orange a proclamé sa sécession il y a quelques jours. Tout le but de l'opération, à mon avis, c'est de laisser les Zoulous s'avancer. Car si les Zoulous proclament officiellement leur sécession, ils vont être suivis par les Xhosa du Sud, du Ciskei. Ils vont être suivis par le Bofuta Tswana. Et à ce moment-là, les Blancs pourront dire, mais il n'y a plus d'Afrique du Sud. Dans ces conditions, puisqu'il n'y a plus d'Afrique du Sud, eh bien, nous aussi, nous sommes autonomes. Un peu ce qui s'est passé, dans une certaine mesure, en Yougoslavie, quand a éclaté la fédération au tout début du processus, où chacun a essayé de reprendre ses billes. La situation va être un peu différente en Afrique du Sud, dans la mesure où il n'y a pas, comme en Yougoslavie, cet enchevêtrement considérable.
En ex-Yougoslavie.
Oui, en ex-Yougoslavie. Cet enchevêtrement considérable de population. Là, il y a des territoires qui sont vides et qui séparent les populations. Le seul problème, ce sont les zones industrielles du Rand. Or, dans le projet de partition, tout cela est laissé au noir. À qui? On ne sait pas. C'est abandonné par les Blancs. Ce qui fait que l'on va se retrouver assez rapidement, dans le cadre de l'éclatement qui va se produire, dans des groupes homogènes. Et dans ces groupes homogènes, avec des territoires qui seront grands comme la moitié de la France, qui seront grands comme le plus petit de ces territoires, le Zoulouland est quand même grand comme plus de la moitié de la France. C'est considérable. Le Zoulouland dans son ensemble, le Grand Natal, c'est presque les deux tiers de la France, dans des ensembles qui vont préfigurer ce qui va se passer dans les grands pays africains, les grands pays au point de vue géographique, c'est-à-dire ces grands pays dans lesquels il y a peu d'ethnies, doivent éclater. Parce que le principe démocratique appliqué à l'Afrique est un principe forcément ethnique, car il n'y a pas de parti politique en Afrique. Il n'y a que des partis ethniques, que des représentations ethniques. En Angola, ce sont trois grandes ethnies, donc trois grands partis politiques. L'Afrique du Sud, deux grandes ethnies noires, deux grands partis politiques. Alors ces pays qui sont gigantesques superficiellement et qui ont peu d'ethnies ont vocation à éclater. En revanche, les pays plus petits dans lesquels vivent des dizaines d'ethnies, bien, le processus démocratique va être équilibré par le jeu de bascule que les différences des ethnies peuvent jouer les unes contre les autres. Mais en Afrique du Sud, nous allons droit à l'éclatement, il est évident. Et je pense que le projet mondialiste est un projet qui va capoter. Et alors ce qui est fascinant dans cette affaire sud-africaine, c'est que tout le monde met en avant un problème économique. Le problème sud-africain n'est pas économique. C'est un problème culturel, c'est un problème ethnique. C'est un problème qui est racial. Et l'approche est complètement faussée par cette vue économique.
Je peux me permettre une question, mais alors, où est le problème alors? Parce que là, tel que vous le décrivez, effectivement, en appliquant le principe des nationalités et le fait qu'il n'y ait pas d'enchevêtrement, tout semble clair.
Oui, tout semble clair, sauf pour la région du Rand, où il y a 6 millions ou 7 millions de Noirs détribalisés, qui, eux, sont le soutien de Mandela, car le vrai soutien de Mandela est là, au Transkei et dans la région du Rand, tout simplement parce que le problème est que les États-Unis, l'opinion mondiale, a décrété une fois pour toutes que Mandela était le représentant des Noirs sud-africains. Bien, les faits vont démontrer que non. Et l'on aurait pu épargner une guerre terrible qui va éclater, si on avait vraiment posé, là, le problème des nationalités en Afrique du Sud. C'est-à-dire un référendum demandant aux ethnies si elles veulent vivre ensemble ou pas. Nous sommes quand même dans une superficie qui est grande comme l'Espagne, la RFA, l'Allemagne, le Benelux et la France. Et là-dessus vivent 30 millions d'habitants. des espaces considérables. Et il n'y a pas de coexistence ethnique, il n'y a pas d'imbrication, tout simplement parce que dans l'histoire, tous ces peuples sont entremassacrés gaiement avant l'arrivée des Blancs. Donc chacun avait son territoire central et un no man's land autour. Donc ces no man's land existent encore. Il y a eu l'émigration dans la zone du Rand, la zone de Johannesburg, mais ça c'est un problème à part, qui doit être traité à part. Je crois que le phénomène va se faire de lui-même. Chacun va décider qu'il est indépendant. Que va faire Mandela pour mettre au pas ses indépendances? Avec quelle armée il n'a pas d'armée? Avec quelle police il n'a pas de police? La police noire, et la police en Afrique du Sud est à 60% noire, et là-dessus elle est à 70% zoulou. Il est bien que cette police noire ne va pas soutenir Mandela. Avec les troupes du Zimbabwe, avec quoi? On ne voit pas très bien. Ce n'est pas l'ONU qui va débarquer. Quand on pense qu'une bande de voleurs de chameaux sachant tirer a mis à genoux le corps des Marines américains et l'ONU, on ne voit pas comment un corps expéditionnaire onusien viendrait en Afrique du Sud affronter les Zoulous, les Bourgs, les Kossas. Alors ce serait le massacre absolu. Je crois que les Blancs en Afrique du Sud jouent très bien en ce moment. Ils jouent très bien parce que tous les petits chefs sont mis aux ordres du général Viljoen. Jusqu'à présent, le problème de l'Afrique du Sud, c'était la situation de la droite française avant le Front National. C'est-à-dire 36 mouvements, tous les côtés, chacun tirant de son côté à U et à Dia. Et maintenant, le général Viljoen et le général Grunwald ont pris la tête de ce front africaneur. Chacun à sa place, chaque ancien mouvement blanc à sa place, mais aux ordres. Et évidemment, il y a une ligne politique. Et cette ligne politique est menée d'une manière qui est assez habile et assez fine. Alors, que va-t-il se passer? Y aura-t-il ou non des élections? Je ne lis pas dans le marc de café.
Mais normalement, on devrait commencer vraiment à rigoler à partir de quand?
Rigoler, je ne sais pas si on va vraiment rigoler. Enfin, moi, je serai sur place et je vous tiendrai au courant.
Vous allez rigoler, c'est déjà une chose certaine. Mais nous.
Je crois que, normalement, les événements devraient se préciser dans le courant du mois de février.
Voilà. Bon, un peu de patience, messieurs.
Il faut quand même reconnaître que chaque fois que l'un des nôtres connaît un problème et l'explique, les Français comprennent. Pour la première fois, j'ai compris la situation en Afrique du Sud.
C'est pour ça que j'avais demandé au professeur Lugan de venir, parce que j'avais cru remarquer qu'il avait quelques lumières sur la question.
En 10 minutes, le problème était expliqué.
Roger, tu m'offres une belle liaison, qu'en général, c'est pour ça qu'il m'arrête beaucoup, mais j'ai sous les yeux un autre truc qui permet de tout comprendre. C'est vraiment un travail incroyable. Je le dis parce que c'est vrai, c'est l'Atlas de l'Afrique, un numéro spécial de l'Afrique réelle. Qui est fait par
le numéro 2-3.
C'est le numéro 2-3. Et alors, c'est merveilleux. C'est bourré de cartes, ce qui n'est pas étonnant pour un atlas.
64.
Et il y a tout dedans. D'ailleurs, pose-moi une question sur l'Afrique, je te montre sur une carte la réponse. Par exemple, tu vas me dire de quelle maladie souffre-t-on en Afrique? Je te dis, tu regardes la carte page 92. Et il y a une carte des maladies endémiques en Afrique, du paludisme, de la maladie du sommeil, etc. Tu veux savoir combien est endetté tel pays allemand, tel pays africain? Je dis allemand parce qu'en même temps, je voyais la page consacrée au Cameroun allemand. Il y a une page, une carte qui montre l'endettement de chaque pays africain en dollars américains. Un atlas historique qui raconte par exemple la campagne de l'Est africain portugais de novembre 17 à septembre 18, l'Afrique en 14, il y a des cartes ethniques, c'est un travail incroyable, c'est le résultat de,
ah oui,
quoi, de 20 ans de recherche.
Oui, alors que j'ai décidé d'éditer ça, parce qu'évidemment aucun éditeur n'était intéressé par ça, puis ensuite je voulais faire cet atlas sans être tenu par la moindre contrainte éditoriale, alors c'est pour cela que j'en ai fait le numéro 2-3 de l'Afrique réelle. Alors je signale aux abonnés qui vont le recevoir à partir du milieu de la semaine prochaine. Si les abonnés ne l'ont pas reçu le 20 janvier qu'ils m'écrivent, c'est qu'il y aurait un problème de distribution. Le numéro est en cours de brochage, là j'ai simplement les épreuves sous les yeux, et il partira dès vendredi soir. Alors je signale également que l'on peut, bon parce que là il faut maintenant que je rentre dans mes frais.
Oui, voilà, c'est ça.
Malheureusement. Alors on peut commander cet atlas donc à l'Afrique réelle, boîte postale numéro 6, 03140 à Charroux, et le prix d'un numéro, 250 francs. 64 cartes et 30 pages de texte. C'est un très gros numéro.
Très gros travail.
Et qui est unique sur le marché.
On est en train de développer une, une espèce de culture marginale, notre appareil de référence, puisque Bernard Lugan publie cet atlas de l'Afrique. Nous, on a publié au Libre Journal un livre de littérature qui est tout à fait passionnant, qui est une série de 25 portraits d'écrivains français fait par
Anne Bernay.
C'est dramatique, il faut que j'arrête, je sais pas ce qu'il faut que j'arrête, mais il faut que j'arrête, fait par Anne Bernay. Alors c'est moins cher parce que c'est évidemment, il n'y a pas de carte, il y a des portraits, mais ça coûte 45 francs franco. Donc vous envoyez, même si vous envoyez 50 francs, c'est mieux, oui, c'est plus simple.
Le principal, c'est que ce soit franco.
C'est plus vite écrit. Ouais. Vous envoyez un chèque de 50 francs, on vous envoie ça, et vous envoyez un chèque de 250 francs à l'Afrique réelle, boîte postale 6, 0340 Charroux.
0340
Charroux. 03140 Charroux, CHA2ROUX, l'Atlas de l'Afrique, numéro spécial. C'est vraiment un outil extrêmement utile et même indispensable. Si vous voulez que vos jeunes gens soient recalés à tous les examens, il faut leur faire lire ça, parce que naturellement, ils n'auront que des idées bonnes, c'est-à-dire mauvaises. Non, mais je blague, mais il faut leur donner ça leur donnera une connaissance réelle du problème africain, puis après, ils pourront raconter toutes les balançoires que leur enseignent leurs professeurs.
C'est bien sûr et certain que les jeunes qui n'apprennent que ce qu'on leur enseigne ou ce qu'on essaye de leur enseigner dans les écoles, ne connaissent strictement rien à ces problèmes. Et je crois que le travail de militants politiques qui est fait par nos amis, par nous tous dans l'ensemble, portera ses fruits un jour. Hein, je crois que du ghetto dans lequel ils essayent de nous mettre, bien, sortent des travaux absolument remarquables, parce qu'il faut quand même bien voir la pourriture des esprits, comment elle est organisée. En ce moment, comme j'écris la nuit, j'explique toujours, je laisse la télé derrière moi pour avoir un petit bruit de fond, hein, et comme ça j'entends quand il y a des attaques contre nous, puisque même la nuit maintenant on nous attaque. Bien, l'autre soir à 3h15 du matin, j'étais sur un chapitre de l'Indochine, j'étais à Webin, je crois, hein, et j'entends une émission, et j'ai regardé dans le journal de télévision, c'était une émission qui s'appelait La Pirogue. C'était sur la une, à 3h30 du matin, et il y avait un gars qui était là, un noir, parlant assez correctement le français, et le commentateur, qu'on ne voyait pas, disait, mais alors comment se fait-il, vous manquez de riz, donc, à l'heure actuelle, dans le Mali. Ah oui, nous manquons de riz. Ah, mais à quoi cela est dû?
À
la colonisation.
Bien sûr, à la colonisation.
Ah bon, lui dit-le. Ah, ben quand même, alors les Français ignorent quand même toutes ces répercussions.
Oui, c'est effectivement.
Mais oui, parce que les Français, il faut quand même bien savoir, au moment de la colonisation,
on mangeait tout le riz.
Ils nous ont obligés à faire, dans certains pays, ils ne voulaient entendre que le mot arachide, dans d'autres pays, ils ne voulaient entendre que le mot riz, et nous, ici, pas de riz. Alors, la forêt, eh bien, il n'y a plus de forêt. C'est les Français, c'est la colonisation qui a déforesté pour qu'on plante du riz. Hein? Mais il n'y a plus de riz maintenant. Enfin, ce qu'ignore le gars qui venait faire ce reportage, c'est que c'est justement les Blancs qui ont amené le riz en Afrique. Et qu'avant l'arrivée du Blanc, ben, ces braves Africains, ils ne mangeaient que du mil ou du manioc.
Alors, il faut voir une chose qui était fondamentale, c'est que les trois quarts des aliments qui sont à l'heure actuelle consommés en Afrique sont des aliments qui ont été introduits à la suite des découvertes portugaises du XVe siècle. Tout ce qui... Il y a quelques grandes zones alimentaires en Afrique. Il y a l'Afrique du haricot. Il y a l'Afrique de l'arachide. Il y a l'Afrique qui mange du petit pois. Il y a l'Afrique qui mange du riz. Tout ceci a été introduit à la suite des découvertes portugaises ou par les Arabes. Avant la colonisation... Avant le XVe siècle, les Africains se nourrissaient comme céréales de sorgho.
Et les missionnaires n'étaient pas encore arrivés.
Ce qui explique en grande partie pourquoi ce continent était vide d'hommes. Et c'est à partir des grandes découvertes que l'on assiste à un essor, ça je le montre dans mes cartes, on assiste à un essor considérable de la population africaine, parce que des conditions alimentaires nouvelles sont données avec des nouveaux produits, des nouvelles plantes cultivées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique se nourrit parce qu'elle a reçu, à partir de l'époque des grandes découvertes, des plantes d'origine américaine transplantées par les Portugais. Ouais. Bon, mais ça, c'est
plutôt... Aussi,
on va pas demander la sous-culture...
L'explication du pillage de l'Afrique par les Blancs, où on voyait des trains de café qui partaient, mais le café, c'est les Blancs qui l'ont planté. Au même titre qu'en Indochine, le caoutchouc...
On va pas rouvrir le débat. Il suffit de lire « Bilan de la décolonisation » de Bernard Lévin.
C'est très intéressant.
Et on a
qu'on diffuse cette...
Alors,
atteindre rapidement.
Professeur, une dernière question qui est souvent posée, alors je vous la pose, en deux mots, pour quelle raison Mandela a-t-il été enfermé pendant des années? Quel crime réel avait-il commis?
Tout simplement parce qu'il était l'instigateur de la grande campagne de terrorisme qui, en 1963... s'est déroulé sur une vaste échelle en Afrique du Sud. Il y a eu 150 attentats à la bombe. La police sud-africaine a démantelé toutes ces organisations terroristes. Et c'est à ce moment-là que Mandela a été mis en prison.
C'était un agent du KGB ou...
Oui, alors ça, non. C'était pas aussi simple. Mandela, on ne peut pas dire que les Zoulous soient anticommunistes et les Kossa pro-communistes. En Afrique, ça ne se situe pas comme cela. Mandela est un nationaliste Kossa qui a joué la carte marxiste parce que c'était la meilleure solution. De même que Boutelesi, lui, a joué la carte occidentale parce que le créneau marxiste était pris. Mais ça aurait très bien pu être le contraire. L'idéologie et l'Afrique sont deux choses complètement différentes. Ce qui compte, ce sont les ethnies et les tribus.
Merci, professeur. Je rappelle, pour à la demande de nombreux éditeurs, que l'adresse, on me dit de la dire lentement, moi je veux bien, mais enfin, on ne peut pas faire plus lentement qu'en éplant, et je l'ai éplé.
Alors,
c'est boîte, comme une boîte, postale, comme une postale, 6...
Boîte postale numéro 6.
Boîte postale, il faut dire numéro 6.
03140.
03140. Charroux.
CHA2ROUX.
Voilà. 250 francs.
Pour recevoir l'Atlas, mais on peut aussi s'abonner.
Oui, mais à ce moment-là, les bulletins d'abonnement sont à l'intérieur. On peut s'abonner pour 4 numéros dans l'année pour 360 francs. Et là, c'est le numéro 2-3 qui sort. Le premier numéro était consacré à l'Afrique du Sud. Merci.
Merci, professeur, et à bientôt.
Eh bien, je repars en Bourbonnais.
Tiens, je vais vous faire écouter quelque chose. Pendant que vous allez partir, je vais vous faire accompagner par une musique qui n'est jamais passée sur aucune radio sous cette forme-là. C'est un document unique, rarissime. Écoutez ça, vous allez rire.
Et aussi pour les veaux, j'étais fait pour les gâteaux et aussi pour les veaux. Le jour de mon mariage, j'ai bien compris ce présage. Oh oh oh, vive les gogos. En cherchant des promotions et surtout du piston, en cherchant des promotions et surtout du piston, pour prendre de la bouteille, il me fallait de l'oseille pour pouvoir faire sensation. Malgré mon rang d'officier, j'étais toujours dernier. Malgré mon rang d'officier, j'étais toujours dernier. Afin que nul ne m'ignore, je parlais de Pythagore dans l'espoir d'être remarqué. Bien trop souvent t'es conduit, un jour j'en fus réduit. Bien trop souvent t'es conduit, un jour j'en fus réduit. D'épouser ma chère Yvonne, et que Dieu me le pardonne, me sauva grâce à ses biscuits.
Voilà, alors, je ne sais pas si vous avez écouté les paroles, je ne sais pas si vous avez deviné de quoi il retourne. Je vous laisse, on en réécoutera tout à l'heure un petit bout, mais je préfère vous laisser dans une douce expectative. Mais je peux vous dire que c'est un document, même Sanders ne l'a pas, ça. Pourtant, Sanders est collectionneur de collections. Donc, normalement, dans sa collection de disques, il devrait avoir ça. Il ne l'a pas. Je crois que c'est un document à peu près unique. Je me demande si même Figueras l'a, et Pinatel. Parce que dans le coup, il y a Figueras et Pinatel. Je vous dis après ce que c'est. Patrice de Blinière, bonsoir.
Bonsoir.
Il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi vous êtes là, je le sais. Mais comment ça s'est passé en deux mots, cette histoire d'annulation? Parce que tout à l'heure, on a plaisanté sur l'affaire, mais comment Pierre Bloch a-t-il été invalidé et interdit de candidature pour un an?
Alors, il a d'abord été invalidé pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas tenu compte de la législation qui tend à limiter et à plafonner les dépenses électorales. Il a dépassé allègrement d'un bon tiers, c'est-à-dire qu'il était à 80 millions de centimes, hein, au lieu de 50 qui est le plafond. Et là-dessus, il a beaucoup discuté, il a fait ressortir, il a fait appel. Et après cet appel, on est resté tout de même aux environs de 60 millions. De ce fait, il a été, d'une part, l'élection a été annulée, et d'autre part, lui est invalidé pour un an. En réalité, cette pénalité d'un an est assez courte, puisqu'elle va de mars 93 à mars 94, bien.
Ah oui, c'est ça.
Hein? Ouais. En réalité, quand on dit un an, l'élection étant le 30 janvier, à trois mois près, il pouvait se représenter.
Alors, donc, c'est l'occasion pour le Front National de participer à une élection partielle à Paris. Ça va permettre de tester. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, qui êtes le candidat dans
alors, ce...
c'est quelle circonscription? C'est 18e,
c'est la
une partie du 19e?
C'est la 19e circonscription qui, du fait des découpages de Charles Pasqua, hein, est un petit charcutage très compliqué. Le 18e arrondissement, dont je suis élu au conseil d'arrondissement, est découpé en trois morceaux. Hein. Il y a le nord-ouest de l'arrondissement, qui est rattaché à la 17e circonscription. Il y a le 18e arrondissement, sauf cette partie, jusqu'à la rue des Poissonniers, qui fait partie de la 18e circonscription. Et la partie qui m'intéresse, c'est la... Enfin, qui m'intéresse, tout m'intéresse dans le 18e, mais la 19e circonscription est constituée de l'est du 18e arrondissement, à partir de la rue des Poissonniers, et d'une partie ouest du 19e arrondissement.
Le quartier Villette.
Voilà, le quartier Villette. Hein, et les quartiers, alors les quartiers phares, la Goutte d'Or, bien entendu, hein, et la Chapelle.
Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de cette élection partielle? Parce qu'il faut bien dire qu'en général, les partielles ne sont pas très favorables au Front National, pour des raisons d'ailleurs qui sont des raisons classiques en matière électorale. C'est-à-dire que très souvent sur des partielles, il y a beaucoup d'abstention.
C'est ça.
On considère que la partie gagnée d'avance, puisqu'en général, le candidat sortant se représente, ce qui ne sera pas le cas cette
fois-ci. Pas le cas.
Et que quand il se présente, il est généralement réélu, dans 90% des cas. Mais là, comme il ne se représente pas...
Ça peut
bouger.
Ça peut provoquer un certain nombre de réactions. Hein. Il faut savoir que d'abord, le fait que Pierre Bloch considère ce siège comme une propriété de famille et présente son épouse n'est pas du tout admis par un certain nombre de gens qui soient du RPR ou même de l'UDF. Hein. De ce fait, ça risque d'accrocher. Et il risque d'y avoir une perte de voix vraisemblable. Bon, il y a cet aspect-là. Alors, effectivement, il y a des candidats de fantaisie qu'on me propose, comme toujours. Il y a Louis Girard, qui, chaque fois qu'il y a une élection, hein, ne fait aucune campagne. Ne fait rien, d'ailleurs, derrière la campagne, puisqu'il fait 3,5% des voix, mais qui me pique directement, uniquement parce qu'il arrive avec des bulletins de vote qui comporte une, ces citations, trop d'immigrés, la France aux Français.
Mais je croyais que c'était interdit, ça.
Ah, c'est interdit, oui.
Sauf à M. Girard.
Oui et non. Et comme il est vraisemblablement piloté par, peut-être pas directement le ministère de l'Intérieur, mais
je ne peux pas croire.
Je ne pense pas penser ça.
Comment peut-on croire une chose pareille de Pasqua? C'est incapable de se livrer à des manœuvres aussi basses.
Et peut-être même par Jean-Pierre Bloch qui trouverait peut-être.
Alors, mais Jean-Pierre Bloch ne peut pas couvrir de son autorité de vice-président ou président ou je sais pas quoi, ou fils du président, c'est un peu la même chose que l'ICRA.
Oui.
Peut pas couvrir de son
Paris
autorité.
Je pense pas. Non. Mais enfin, ça nous pique quand même très directement, 3,5% des voix.
C'est à ça que ça sert d'ailleurs.
Vous avez deviné.
Voilà,
c'est fantastique.
Et alors, il y a aussi y a un brillant journaliste de Minute qui se présente contre vous, me semble-t-on, dit.
Alors, c'est un certain monsieur Folk, qui est journaliste de Minute, qui a été, assez curieusement, je crois, collaborateur de Jean-Pierre Bloch, dans une entreprise, je ne sais pas laquelle, mais je crois que c'est dans une entreprise journalistique, car Jean-Pierre Bloch est patron de France Soir. Ou l'a été.
Donc c'est un employé de... un ancien employé de...
me semblerait-il, hein, d'après les informations que j'ai pu avoir.
C'est bien. C'est... Donc les journalistes de Minute se présentent contre les candidats du Front National,
oui,
maintenant.
Oui, c'est intéressant, d'autant plus... mais je vous signale que ça m'a valu d'ailleurs, je dirais pas une petite engueulade, mais quand même, ça m'a valu de préciser mon sentiment sur cette question à Philippe Biteau, que je considérais jusqu'à présent comme un ami. J'ai fait partie de son association. Philippe Biteau et la FPIP soutient la candidature de ce journaliste.
C'est police et sécurité.
Ah oui.
Et quel journaliste, j'ai pas entendu?
Arnaud Folk.
Ah, oui. Folk. Enfin, ceci étant, je lui ai expliqué assez spontanément ma façon de penser sur la chose.
Bien, donc tout est en place pour que le Front National améliore son score.
C'est
sympathique tout
ça. C'est-à-dire que les autres font une course de plat et nous, on doit faire une course d'obstacles. Mais enfin, les règles sont...
On se demande parfois si les ramassages d'ordures passent dans le quartier. Il doit quand même bien y avoir des bennes qui passent de temps en temps.
Oui, oui, mais elles prennent pas tout. Parce que il faut voir que c'est un quartier, c'est une circonscription qui comporte pratiquement tous les défauts qu'on subit en France et tous les malheurs qu'on subit en France.
Oui, mais peut-être pas les énumérer parce que ça nous emmènerait trop loin.
Non, mais d'abord, début d'année, au lieu de présenter des vœux aux gens, ça risquerait de leur filer le cafard, car on leur souhaite tout de même une année meilleure que la précédente.
Alors, ce qui me concerne, ça peut pas être, c'est pas difficile du tout.
C'est pas difficile. Bon.
À part mourir, il ne peut plus rien m'arriver. Donc,
Oui, mais il y a un proverbe qui dit « mourir est payé, on n'est pas pressé », alors attendez un peu, moi. Ceci étant, vous avez quand même des trucs extraordinaires. On a réussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de la façon dont on a dispersé tout l'îlot Chalon au moment d'en faire une reconstruction totale. On a effectivement donné un coup de pied dans la fourmilière, mais les fourmis se sont reconstituées en périphérie. Là, on vient de détruire, sur la place de Stalingrad, qui est maintenant parfaitement nette, le marché de la drogue. Victoire, Cocorico, dans tous les azimuts.
Oh, ils sont partis très loin, ils sont rue d'Aubervilliers.
Voilà. Ils sont exactement entre... ils sont dans la nuit, vous passez à 14h du matin, ce qui arrive à certains de nos colleurs d'affiches, on voit 300 à 400 gus à 4h du matin qui sont en train de trafiquer.
Mais j'ai déjà raconté à ce micro que j'ai vu mieux dans le quartier. J'ai vu au débouché de la rue d'Aubervilliers sur le boulevard de la Chapelle, je crois, ça s'appelle déjà.
Ouais.
Le boulevard de la Chapelle.
C'est le boulevard de la Villette.
Le boulevard de la Villette, à cet endroit, oui. Donc, un escadron de CRS, une escouade, je sais pas comment on appelle ça, j'ai pas les termes techniques, enfin, un groupe de CRS. Je sais pas, enfin, non, CRS, je peux pas dire ça. Un groupe de policiers, en uniforme, qui étaient en train de surveiller toutes les voitures qui passaient pour voir si les automobilistes avaient bien leur ceinture. Et dès qu'il y avait un type qui avait pas sa ceinture, arrêtez-vous, tac, contravention, 400 balles. Et exactement derrière les CRS, c'est-à-dire à 3,50 m, il y avait 30 types qui dealaient, qui vendaient de la drogue tranquillement, au vu et au su de tout le monde. Mais les CRS n'étaient pas là pour arrêter les trafiquants de drogue, ils étaient là pour arrêter les automobilistes sans ceinture.
C'est moins dangereux, c'est plus facile.
Sauf quand ils sont bronzés.
Ah ben ça c'est une autre paire de manches. Non mais on voit pas ça, on le voit après avoir arrêté, donc on s'excuse et tout. Mais là c'était parfaitement clair que le trafic de drogue se passait sous les yeux de la police. Alors je suis navré, c'était pas du temps de Pasqua, c'était avant. J'en suis désolé, je préférerais que ça se passe aujourd'hui parce qu'au moins on aurait de bonnes raisons d'en dire du mal, quoi qu'on sait pas ça qui manque. Mais voilà, je pense que ça a pas beaucoup changé.
Chino avait écrit un petit couplet très très sympa sur la sécurité. Il avait écrit, c'était du temps des autres, l'État socialiste qu'il citait, faire respecter la loi républicaine, ce n'est pas laisser une infime minorité de casseurs faire la loi, pour les choisir ensuite comme interlocuteurs. Cette faiblesse outrageuse met le feu aux poudres et déclenche la contagion. Faire respecter la loi républicaine, c'est également faire face à l'immigration clandestine. 10 000 d'entre eux manifestent librement dans les rues de Paris. Comptent-ils après de clandestins? Bon, ça c'est vrai, c'est plein de bon sens qu'il disait. Mais quand vous lisez, par exemple, que indifférent entre toxicomane place de Stalingrad a fait un blessé à l'arme blanche le 28 septembre, qu'un journaliste de France 2 qui filmait les trafiquants de drogue...
C'est plus qu'un journaliste de France 2, c'est un camarade de Roger et de moi-même qui s'appelle Buffon.
et qui a été poignardé à mort.
A été frappé de plusieurs coups de couteau et roué de coups.
Il est encore à l'hôpital. Et c'est parce qu'il a 9 vies qu'il est vivant.
Ouais. Comme les chats. Hein. Ouais. Un inspecteur de la brigade des stupéfiants a été roué de coups par 2 individus qui ont ensuite agressé un automobiliste pour lui voler son véhicule et ont enfoncé la vitrine d'une pharmacie. Ça, c'est le 5-10. Un officier du contingent de 20 ans, il le cite, Abdel Fattah El Rahmani vient d'être interpellé, il avait tué d'un coup de poignard. Enfin, j'en ai pour...
Ben c'est enfin un militaire qui tue, on va pas se plaindre. Voilà. Cela dit,
alors, la sécurité,
quelle est la proportion d'électeurs par rapport inscrits par rapport au nombre d'habitants?
Alors, je prends la goutte d'or, hein, qui est symptomatique, puisque c'est un décompte sur 6 bureaux de vote. Il y a 6000 inscrits pour 25 000 habitants.
6000 inscrits pour 25 000 habitants. C'est-à-dire il y a 19 000 personnes qui sont, etc. Eh bien,
Il y a beaucoup de mineurs.
Il y a beaucoup de mineurs, oui. C'est un quartier extrêmement jeune.
Il y a beaucoup de jeunes.
Il y a beaucoup de jeunes, oui.
Comme on dit,
des gaules. Alors, un pronostic.
Un pronostic. Alors,
Vous avez combien la dernière fois exactement?
14,46 ou...
Oui, enfin, de l'ordre de 14.
C'est 14 le meilleur à Paris, non?
Non. J'ai été battu d'une courte moustache par mon ami Jean-Pierre Revaux.
Ah oui, c'est vrai.
C'est vraiment une très courte moustache.
Une très courte moustache. Non, mais ceci étant, le pronostic, je pense pas qu'on sera pas élu au premier tour. Hein. C'est improbable. Mais on peut quand même mener un bon combat, et c'est ce qu'on souhaite faire. Hein. On a pris des dispositions pour ça. Il y a ici mon suppléant... Pierre Combe.
Pierre Combe, oui. Un natif du 18e. Et un de souche qui a l'honneur d'être le suppléant d'un de Blinière.
Qu'est-ce que c'est cet accent qu'il a?
Le fidèle lieutenant de Jean-Marie Le Pen.
Qu'est-ce que c'est cet accent que vous avez? Vous venez d'où?
Paris 18e.
Ah, on parle comme ça à Paris?
On parlait avant.
Ça, c'est marrant. Mais il est jeune pourtant.
Dans
le 18e, j'ai entendu d'autres accents. plus couramment.
Quartier des Abbesses. Oui.
Mais ce qui est incroyable, c'est quand même que dans un quartier, c'est même pas les territoires occupés, là, c'est carrément, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, sur 25 000 habitants, il y a 6 000 électeurs français, hein. Ce qui est incroyable, c'est que le Front National n'est pas un élu depuis 10 ans, ou 15 ans dans ce quartier-là. Cette fois-ci, s'il vote pas, si vous n'êtes pas député, le 1er février au matin,
c'est pas si simple,
c'est à se flinguer.
Parce que j'en ai parlé, moi, avec des commerçants de la rue Le Pic, qui sont complètement de cœur, ils voient tellement de trucs. Ouais. Mais il y a des liens commerciaux avec la mairie de Paris. Ouais. Il y a des petites choses, des petits trucs et des petits machins.
On est en pleine Chiraki.
Ils n'osent pas sauter le pas, bien souvent. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, tant pis, qu'ils crèvent, je dirais. Mais voilà, c'est ça.
Dans le 18e, le commerce est en train d'évoluer d'une façon intéressante. Par exemple, il y a un charcutier qui travaille sur rendez-vous. Et oui, parce que charcutier dans le coin, du côté de la rue Marx-Dormois, on peut pas dire que ce soit débordé de clientèle. Donc, comme c'est un excellent charcutier, il ouvre le matin, mettons le jeudi à 10h, il sert sa clientèle qui sait qu'il est là, et il leur dit, je serai ouvert maintenant samedi à 10h.
Plutôt samedi, oui.
Oui, samedi, on est tranquille, comme ça. Et puis, le samedi, il leur dit, maintenant, à mardi. Mardi, j'ouvre de...
Il peut faire sa réclame dans Pariscope.
Non, mais le commerce dans le 18e est en train de mourir.
Ah oui, complètement.
Il meurt complètement pour des raisons très simples. Il y a un tas de... Tati est à la limite extérieure de la circonscription. Mais il y a un tas de sous-tati. Il y a des souks partout.
Guérissold, compagnie, tout ce qui...
Oui, il y a même des bazars. Il y a
même un qui s'appelle le requin de Barbès. C'est admirable comme nom de magasin. On peut dire qu'il annonce la couleur, celui-là. Le requin de Barbès.
Vous avez des coiffures, des coiffeurs qui annoncent coiffeurs afro et européens. La notion de « et européen » va sans doute disparaître. Mais enfin, vous avez tout un commerce. Vous avez des investissements. Vous avez... Le Monde faisait état d'un article en disant il y a non pas des rapes d'enfants, mais des enfants qui sont déplacés et qui sont rendus non pas contre rançon, mais contre récompense. C'est quand même tout un nom. Ça change complètement le principe. Et vous avez un tas d'investissements faits par de l'argent qui vient de la drogue ou qui vient des Chinois, mais celui des Chinois, on ne sait pas d'où il vient, car il ne travaille jamais avec des banques européennes. Il n'y a pas une banque qui peut se vanter d'avoir le compte en banque d'un Chinois, c'est rarissime. Et donc, il y a des investissements très curieux, il y a des réhabilitations d'immeubles qui font que les vieilles gens sont totalement écartés, puisque la petite bonne femme qui vivait dans une petite chambre peu confortable, avec des wawas sur le palier, bon, c'est fini, on lui promet une douche, on lui promet un tas de trucs, mais à un loyer qu'elle sera infoutue de payer, la malheureuse. Donc, éjectée. Et ce quartier se dépeuple. Le commerce, il n'y a pratiquement plus rien. Il y a des produits étrangers vendus sans aucun contrôle. Il n'y a plus de produits français. Chez Tati et les autres, c'est fini. Vous n'avez pas un produit, vous n'avez pas des rillettes de Conneret, hein,
faut pas croire. Je ne crois pas, d'ailleurs. Non, cela dit, pourquoi vous voulez être député d'un quartier comme ça? Moi, j'aurais plutôt envie de foutre le camp.
Non, je vais être député d'abord, parce que Jean-Marie m'a, j'allais dire, plongé dans le grand bain en me disant, faut y aller. C'est d'ailleurs...
Pourquoi il n'y va pas, lui?
Oui, non, mais parce qu'il pense peut-être qu'il a autre chose à faire. Mais...
Non, parce que quand on a
il a été élu du 20e.
Il a été l'élu du 20e.
Pas triste non plus.
L'élu du 20e, j'ai fait sa tournée de campagne électorale avec lui. Non, parce qu'il faut quand même que les gens du Front National soient sur place. Et moi, j'ai accepté d'y être. Donc, dans ma famille, on n'est pas du genre à se débiner quand on a décidé un truc.
On a fait remarquer ça.
Et je trouve tout à fait normal d'être là.
Et bien, écoutez, nous autres, les deux souches, nous sommes un peuple humilié. Et la seule façon de retrouver notre dignité, c'est la lutte. Et la lutte politique avec le Front National et Jean-Marie Le Pen.
Ça fait plaisir, c'est inhabituel d'entendre cette façon de parler, mais donc ça existe encore à Paris.
C'est les derniers résistants avec les charcutiers. Voilà.
Et vous parliez de
merci,
la sécurité.
Oui.
Vous parliez de la sécurité.
Il nous reste une minute,
bon,
Patrick Bellinière.
De moins en moins de jeunes d'origine française fréquentent les écoles primaires, les collèges de quartier. C'est l'écho de la goutte d'or. Et le seul truc...
Je convie nos amis demain, 6 janvier, à 20h15, salle LSC 69 Terre, rue de la Chapelle, métro Porte de la Chapelle, les militants, les sympathisants et les amis, à venir pour une soirée militante.
Il faut redire l'adresse.
Oui.
69 Terre, rue de la Chapelle, Paris 18e, métro Porte de la Chapelle.
C'est tout près de la Porte de la Chapelle. Quand on est au métro, c'est à 300 mètres de la Porte de la Chapelle.
Et on peut nous joindre à l'association Amis, Famille et Nature, Famille et Nature, 46 rue Pajol, téléphone 40 38 35 73. Nous recrutons les militants pour boitage et collage. Merci.
Merci à vous, bon courage.
Merci Serge.